Ce soir, nous allons donc nous pencher sur une forme d'escroquerie qui cible depuis 4 ans environ les grandes entreprises françaises de Vinci à LVMH, en passant par le cabinet d'audit KPMG. Alors le principe est assez simple, les escrocs réussissent à convaincre des employés de bonne foi de faire des virements internationaux portant sur des sommes considérables. Maintenant, comment ? C'est ce que nous allons voir avec vous, Sarah Guibaudeau, bonsoir.
Bonsoir.
Alors par quel miracle ces escrocs peuvent-ils piéger des employés ?
Alors vous avez peut-être déjà reçu un mail qui semble provenir d'un ami qui vous appelle au secours et demande de l'argent. Les arnaques dont on va parler ce soir ressemblent un peu à ça, en beaucoup plus perfectionnées. Fin 2010, sont apparues les arnaques au faux président. Un escroc se fait passer pour le PDG d'un grand groupe, il appelle le directeur financier d'une filiale et lui demande de virer une grosse somme d'argent à l'étranger. Il prétexte une OPA qui doit rester secrète. Écoutez cette conversation récupérée par la police entre une comptable et un escroc.
Ils sont obligés, en interne, par rapport à la régulation des marchés, de ne pas faire les règlements par la voie normale. C'est pour ça que j'ai pris personnellement contact avec vous.
Oui.
Et que je vous confirme ça par email, entre vous et moi. Ce que je vous demande, par contre, si on se croit, c'est de ne pas m'en parler et de ne pas me répondre à cet email.
En revanche, donc moi, je vais quand même en aviser ma hiérarchie.
Non. Ce que je vous demande, puisque c'est vous qui vous occupez des paiements, c'est directement d'en référer à personne, madame.
Oui, très bien, mais...
Si ça vous embête éventuellement, vous me le dites et je me débrouillerai autrement. Mais je cherche une personne de confiance qui est entièrement avec moi et qui garde la discrétion avec moi. La confirmation, vous l'aurez par mon email avec ma signature sur la facture.
Oui, il est assez persuasif ce monsieur, c'est terrible d'ailleurs ce qu'on entend à ça, c'est une forme de torture morale ça.
Et ça marche, ici c'était fin 2013, la comptable a viré plus de 300 000 euros.
Alors c'est évidemment une perte pour l'entreprise, mais ça a aussi de graves conséquences sur les salariés qui sont ainsi piégés.
Licenciement, dépression, il y a eu des tentatives de suicide. En 2005, une directrice d'une agence de la Poste a perdu son travail après un scénario rocambolesque. Elle reçoit un coup de fil d'un escroc qui se fait passer pour son PDG. Il la met en confiance, il connaît des détails très personnels sur elle. Le faux président la met en contact avec de faux agents secrets. Ils disent qu'ils enquêtent sur un gros client de l'agence qui veut clôturer son compte. Le client, encore un imposteur, demande à la directrice de sortir une grosse somme d'argent en liquide. Nouveau coup de fil des pseudo-agents secrets, ils veulent intervenir avant la transaction pour marquer les billets. La suite est racontée par l'avocate de la directrice Bernet, maître Sylvie Noakovic.
Un rendez-vous lui a été donné dans un café à proximité de l'agence pour remettre ses fonds au pseudo service secret français. Et elle devait effectivement s'enfermer dans les toilettes et attendre qu'une personne lui prenne les billets de manière à les scanner. Elle ne devait pas regarder le visage de la personne et attendre qu'on lui rende les billets. Elle a pu attendre bien sûr éternellement puisque malheureusement elle s'est vite aperçue de la supercherie. Ça pourrait faire sourire évidemment. Malheureusement ça a été vraiment un choc psychologique très fort. C'est vraiment une des premières victimes de ce mode opératoire. Du coup, la réaction des employeurs a été très violente vis-à-vis d'elle. Ça se passerait aujourd'hui. On sait combien les escrocs sont des manipulateurs. Ce sont des gens qui, véritablement, ont enquêté sur sa personnalité et sur son entourage. Donc, c'est vrai qu'elle a été flouée. Et puis, elle a été victime d'un harcèlement téléphonique. Ils ne la lâchaient pas. Ces harcèlements téléphoniques lui ont fait tourner la tête, en fait.
Cette affaire sera jugée l'année prochaine à Paris. 13 personnes sont renvoyées en correctionnel, mais certaines sont en fuite sous le coup de mandats d'arrêt.
Alors ce qu'il faut préciser quand même, Sarah, c'est qu'il ne s'agit pas que de comédiens qui savent se montrer convaincants, ce sont aussi des gens qui préparent leur coup très en amont.
Avant de passer à l'attaque, il y a tout un travail de renseignement, raconte Alain Juillet. Il est président du Club des directeurs de sécurité des entreprises.
On va pendant des mois pirater un site d'entreprise pour regarder comment se font les échanges de mails à l'intérieur de l'entreprise, les mots employés par les uns et par les autres, qui est la secrétaire ou l'assistante de monsieur un tel. Ils vont tout regarder, hein. Là c'est vraiment très technique, hein. Jusqu'au moment où ils maîtrisent parfaitement la chose, et là le piège se fait. En général, un vendredi soir, de préférence avant une fête ou autre, le président, qui comme par hasard n'est pas dans son bureau à ce moment-là, ou le directeur général, envoie un message au directeur financier en disant virer 1 million de dollars, 5 millions de dollars à tel endroit immédiatement. Il y a eu un cas où, dans le message qu'ils avaient envoyé pour demander un virement, ils donnaient les rendez-vous qui avaient eu lieu dans les 6 derniers mois entre les dirigeants de l'entreprise et les sociétés dont ils prétendaient être les représentants. Donc ils avaient toute l'information.
Oui, là on voit bien qu'on a affaire à des escrocs très organisés, très futés, et qui connaissent aussi les combines qui permettent de brouiller les pistes.
Leur téléphone, des numéros jetables achetés sur Internet, évidemment, cela complique sérieusement le travail de la police judiciaire. Jean-Marc Souvira est le patron de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière.
C'est une technique qui est à la portée de tout le monde, notamment avec les plateformes de téléphonie dématérialisées qui permettent d'acheter des numéros de téléphone, des adresses IP, des numéros de fax. On va acheter un numéro, un 01, 02, etc. En fait, on va acheter un numéro français. Donc, que font les escrocs ? Ils vont acheter, par exemple, un numéro en 05 parce que le siège social de l'entreprise est dans le sud-ouest. Ils vont attaquer une filiale qui se trouve en Espagne. Et quand le numéro apparaît sur l'écran, de manière, je dirais, presque un peu subliminale, la personne qui décroche en Espagne pense que c'est le siège qui l'appelle puisque c'est le même indice. C'est extrêmement simple, d'autant que ces numéros sont achetés avec des cartes de paiement prépayées. Anonymes et intraçables également. Les moyens techniques que les escrocs utilisent ne permettent pas de remonter physiquement à eux. On a un point de départ qui est vraisemblablement Israël, puisqu'on remonte d'adresse israélienne. Mais quand on fait le chemin inverse, on n'arrive pas à remonter directement sur la personne.
Oui, très compliqué, donc on le voit, de remonter la filière. Bon, cela dit, les entreprises ne restent pas les bras ballants hein, ces derniers mois ou ces derniers temps. Elles ont cherché des parades, mais c'est très compliqué parce que ces attaques évoluent.
Oui, les escrocs s'adaptent. Ils ont inventé de nouvelles histoires et se sont associés à des pirates informatiques. C'est ce que constate Vincent Lemonnier, substitut du procureur à Lyon, chargé de la GIRS, la juridiction de la criminalité organisée.
Comme les entreprises ont commencé à faire attention, on a changé de mode opératoire où cette fois on s'est fait passer pour un service de la banque et on a dit, voilà, il faut faire des essais techniques sur votre portail bancaire et donc on va simuler un faux ordre de virement qui en réalité sera un vrai virement au bénéfice de l'escroc. Donc là, on va avoir un premier contact téléphonique et ensuite l'escroc va prendre la main sur l'ordinateur pour effectuer lui-même le virement après y avoir été autorisé par le comptable qui a été trompé. Et le troisième phénomène qu'on a vu, c'est qu'on a des virus informatiques qui ont automatisé les faux ordres de virement. Le virus s'installe à la suite de l'ouverture d'un mail sur l'ordinateur cible. Et ensuite, dès que la personne va se connecter au portail bancaire, le virus va émettre des ordres de virement à destination de l'étranger.
Ce virus, baptisé Zeus, a sévi ponctuellement à la fin de l'année 2013. Les entreprises doivent apprendre à mieux se protéger. C'est le message que martèle Alain Juillet.
Nous n'en sommes qu'au début. Il faut vraiment être un homme préhistorique, un homme de Cro-Magnon, pour attaquer une banque avec une Kalachnikov ou se faire un distributeur de billets avec une voiture bélier. C'est absurde. On risque 15 ans de prison, on risque une amende énorme. Alors que si vous piratez un ordinateur dans lequel il y a les recettes d'une entreprise, quel est le risque ? Pratiquement nul. Bien sûr, parce que vous ne pouvez pas poursuivre à l'international si facilement que ça des gens qui ont fait des opérations depuis l'étranger, que le crime informatique aujourd'hui est très peu puni ou très mal puni en France. Et pendant ce temps-là, les voyous courent toujours, et je dirais de mieux en mieux.
Bon, alors on a compris que les escrocs sont persuasifs, qu'ils sont ingénieux, qu'ils maîtrisent en plus les technologies informatiques. Mais jusqu'où s'étend leur terrain de chasse, Sarah ?
À toute la France, déjà. C'est pour cela que le ministère de la Justice a mis en place depuis 6 mois un groupe de travail avec des magistrats de chaque région. On retrouve le même genre d'attaque au Luxembourg, en Suisse ou en Belgique. Écoutez cet échange entre un escroc et l'employé de la filiale flamande d'un groupe français.
Comment allez-vous ?
Très bien, merci. Comment je peux vous aider ?
Alors dites-moi, vous avez reçu un ordre de paiement de 886 000 euros, c'est ça ?
Je ne sais pas pour quel fournisseur, c'est ça, les paiements ?
Oui, pour Hong Kong, oui. 886 270 euros, c'est ça ?
Ah oui, d'accord, je l'ai trouvé. Il est arrivé hier, c'est possible que vous m'envoyez encore des coordonnées
Alors justement, comme c'est un paiement exceptionnel, d'accord ? Vous le faites partir quoi qu'il arrive, c'est très urgent et vous recevrez donc les documents adéquats d'ici 48 heures, d'accord ? Parce que c'est un paiement très important et c'est une société dans laquelle nous sommes sur une élaboration de marché international. Donc très important, vous le faire partir immédiatement, évidemment.
Ok, ok.
Là, on est en Belgique. Seuls les pays francophones sont touchés. Ce n'est pas un hasard. Le commissaire divisionnaire Jean-Marc Souvira est convaincu d'avoir affaire à des équipes d'escrocs français ou plutôt franco-israéliens.
Sur les investigations techniques que nous avons menées à partir d'attaques d'entreprise, c'est-à-dire quelle téléphonie avait été utilisée, quelle adresse IP avait été utilisée, on est remonté jusque sur l'État d'Israël. Et donc on s'est intéressé à ce panel d'escrocs qui avait quitté la France et qui se trouve en Israël. On ne peut pas monter des escroqueries aussi importantes sans une pratique de l'escroquerie qui a à peu près une vingtaine d'années. Les personnes sur lesquelles on travaille sont celles qui ont fait les affaires du sentier, qui ont travaillé sur les encarts publicitaires, la téléphonie, la taxe carbone. Et quand toutes ces escroqueries s'arrêtent, pour eux, ce n'est pas compliqué de trouver la nouvelle faille.
La taxe carbone qui leur a permis de s'enrichir à milliards, il faut le rappeler, notamment aux dépens du fisc français.
Alors, la taxe carbone a rapporté, selon Bercy, 1,8 milliard d'euros en France. En Angleterre, c'est près de 5 milliards d'euros. Danemark, Allemagne, Italie, tous ont été victimes en milliards d'euros. On a travaillé avec la police israélienne, on a vu les escrocs. Enfin, ce sont des gens qui vivent dans un luxe absolument inouï, maisons somptueuses, plusieurs voitures de luxe, soirées dans les plus grandes discothèques, les plus grands restaurants de Tel Aviv. Et la difficulté pour les policiers israéliens, c'est de faire le lien entre l'argent dont ils disposent et leur origine.
Et en France, en tout cas, pour essayer de débrouiller tout ça, l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière a saisi Europol et Interpol, autrement dit les instances internationales de la coopération policière.
Les escroqueries aux faux ordres de virement, c'était le sujet de la réunion d'Interpol à Lyon les 27 et 28 octobre, parce que l'argent extorqué aux entreprises transite de plus en plus par des pays comme la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, Chypre ou l'Angleterre. Mais la destination finale des virements, c'est la Chine.
La Chine ? Qu'est-ce que la Chine vient faire là-dedans, Sarah ?
C'est bien ce que se demandent les magistrats lyonnais qui enquêtent sur des arnaques dont ont été victimes trois filiales de grands groupes. Les investigations les ont conduits à plus de 8000 km, raconte le substitut du procureur de Lyon, Vincent Lemonnier.
La Chine est en train de s'ouvrir manifestement en matière de coopération internationale. On a des réponses des autorités chinoises alors qu'avant c'était beaucoup plus difficile. On a demandé aux autorités chinoises de pouvoir interroger et interpeller la personne qui était bénéficiaire de ces virements. Et les autorités chinoises ont permis à un juge d'instruction de la JIRS de Lyon de se déplacer en Chine pour procéder à l'interrogatoire de cette personne.
Dans ce cas, le Chinois est le blanchisseur, celui qui va permettre aux escrocs de récupérer leur argent en brouillant un peu plus les pistes. Pour le commissaire Jean-Marc Souvira, il s'agit d'un système de compensation occulte qui illustre parfaitement la mondialisation de l'argent du crime.
La question qui s'est posée, c'était pourquoi les entreprises françaises envoyaient l'argent en Chine alors que les attaques étaient faites depuis Israël. D'autant que l'argent qui arrive en Chine est immédiatement décaissé et reste en Chine. Donc on s'est dit, mais comment les escrocs retombent sur leurs pieds ? En fait, on s'est aperçu que la communauté chinoise en Europe produit énormément d'argent, un cash, qui provient du blanchiment de fraude fiscale, du travail dissimulé, de la contrefaçon, d'extorsion, de proxénétisme. Ce cash est absolument gigantesque, ne peut pas être intégré dans le système bancaire, parce que les TRACFIN, et notamment le TRACFIN français, quand il va voir un mouvement d'argent, il va poser la question à la banque en disant « mais il y a 1 million d'euros qui est déposé par un ressortissant chinois, d'où vient-il » Donc en fait, on a une communauté franco-israélienne qui sait faire envoyer de l'argent d'une entreprise en Chine. Quand l'argent arrive en Chine, la communauté chinoise, par exemple en France, va remettre en France, aux représentants de la communauté franco-israélienne, le montant qui a été envoyé, par exemple 1 million d'euros, majoré de 7 ou 8%, qui est le montant du service. En fait, on a une conjonction d'intérêts et de savoir-faire. Je produis de l'argent sale, mais j'ai du mal à l'envoyer en Chine, alors que je dois l'envoyer en Chine. Et j'ai une communauté qui sait comment extorquer de l'argent, l'envoyer en Chine. Donc on a à la fois deux structures liées à la criminalité organisée qui s'entendent sur un mode de fonctionnement commun.
Et si on résume, ça veut dire qu'on a un système très complexe et qu'on ne peut rien faire ou pas grand-chose contre ces escrocs.
Oui, d'après la police, 700 enquêtes ont été ouvertes depuis 2010. Il y a eu des arrestations, des mises en examen. Mais les cerveaux sont souvent à l'abri. Et hors micro, certains enquêteurs se plaignent d'un manque de coopération de la part d'Israël. Quant à l'argent extorqué, si l'alerte est donnée assez vite, les banques peuvent bloquer le virement. La justice française fait geler les fonds à l'étranger. Ce qui reste compliqué dans certains pays, c'est d'obtenir rapidement une restitution.